Bienvenue pour cette huitième
conférence IENA,
une activité du pôle IENA, animée, comme vous le savez,
conjointement par le Musée Guinée,
dont je salue ici le président, M. Jaliche, et l'école française d'Extrême-Orient. Cette conférence sera présentée en anglais, avec une traduction simultanée pour ceux qui le souhaitent. Et je vous invite donc à vous servir des casques qui sont à l'entrée. Cependant, si personne ne souhaite cette traduction, écouter la traduction simultanée par un casque, je vous propose de ne pas la faire. Et de préparer, comme ça ne pose aucun problème. Personne ne souhaite, comme si personne n'a un casque. So, I have a great pleasure and honor in introducing to you Professor Iman Chubey. Professor at Nimbu University in Delhi, where she also obtained her PhD after a DPhil degree at Cambridge University. Professor Ray has also had visiting positions in several universities, including Sydney, Oxford, and Lyon, and Lyon-Bourg in France. She is the author of many distinguished publications, most recently Colonial Archaeology in South Asia in 2007, The Legacy of Monsignor Wheeler, published by Oxford University Press, another book published in 2007, Monuments, Wisdom Tree in Delhi. In 2003, at the Cambridge University Press, The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia, subject that will interest several of our colleagues here in particular. So thank you very much, Himanshu, for having accepted to contribute to this lecture series. And we're all eager to hear your talk on Providing for the Buddha, Monastic Centers in Eastern India, which is in particular the state of Orissa.
Oh, thank you very much, and thank you for coming. I'm really grateful for being invited to give this presentation today. I've been told I have to read, so I'm sorry that I'll have to read. But I think that's, since I'm covering a lot of ground, and I'm covering both Andhra and Orissa, it's best that I read, you know, to get all the thoughts in that I thought should be there. Let me start with a quotation which comes from one of the edicts of Ashok, the Mauryan ruler Ashok. That's a map which indicates where the Mauryan edicts are. And I think this particular edict, which talks about his remorse at the killings in Kalinga, is especially important for our discussion today. He writes, when he had been consecrated...
8 ans après son sacre, le bien-aimé des dieux, le roi Piyadasi, Ashoka, a conquis Kalinga, qui recouvre une grande partie de l'actuel Orissa. 150 000 personnes ont été déportées, 100 000 ont été tuées, et plusieurs fois ce nombre a péri. Plus tard, une fois le Kalinga annexé, le bien-aimé des dieux pratiqua très ardemment l'exercice de la loi, le Dhamma, l'amour du Dhamma et l'enseignement du Dhamma. Les édits d'Ashoka, monarque Maurya 272-232 avant Jésus-Christ, sont les plus anciens témoignages de la présence du bouddhisme en Inde de l'Est, de même que dans d'autres régions du continent. On peut les classer en plusieurs catégories, les édits sur rochers, majeurs et mineurs, les inscriptions dans les caves et les édits sur piliers. Les édits mineurs sur rochers formeraient le groupe le plus ancien des édits d'Ashoka, suivi des édits majeurs sur rochers. Les édits sur piliers furent promulgués en dernier, mais à ce jour, on n'en a retrouvé aucun sur la péninsule indienne. Les édits majeurs sur rochers consistent en une série de 14 proclamations gravées sur des rochers. On en a découvert sur l'ensemble du sous-continent indien, de Shabazgari dans le district de Peshawar au Pakistan actuel, jusqu'au site de l'Andhra Pradesh dans le sud de l'Inde.
In Kalinga, in Orissa, both at Thauli and at Jaugara,
L'édit numéro 13 est le plus important de l'ensemble, et c'est dans celui-là qu'Ashoka exprime son remords quant au massacre de Kalinga. Bien que cet édit ait été remplacé dans les inscriptions du territoire de Kalinga à Jogada sur la rive nord du fleuve Rishikulya dans le district de Ganjam et à Dauli dans le district de Puri, il ne fait aucun doute qu'Ashoka se soit donné pour mission de répandre la loi bouddhiste. Les inscriptions de Dauli et de Jogada indiquent que les édits devaient être proclamés le 8e jour de la constellation Tissia et devaient être lus à haute voix. En Orissa, l'association des édits d'Ashoka avec l'éléphant constitue encore une particularité intéressante, comme on peut le constater à Dauli, où l'on voit un éléphant sculpté dans le rocher, au-dessus de la pierre portant les inscriptions. Il en existe d'autres exemples, comme à Kaima, dans le district de Jaipur.
And I'll be talking more about Jajpur district, as that's an area where a large number of Buddhist monuments have been found. This rock-cut elephant.
On a trouvé sur ce site une statue d'éléphant taillée dans le roc, à l'intérieur de ce qui a peut-être été un monastère, mais dont il ne reste que quatre piliers en condalite. Ainsi, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une série de vestiges de monuments tels que des piliers, des édits sur rochers et des stupas bouddhiques dessinaient le paysage religieux bouddhiste. Il existe trois traditions qui datent la mort du Bouddha, et qui la situe soit vers 543 avant Jésus-Christ, ou vers 370 avant Jésus-Christ.
Long after what, or let me put it differently, that the monuments date long after the time of the Buddha, and they are not contemporary with the life of the Buddha.
La question que je souhaite étudier dans cet exposé est celle de savoir quel est l'agent responsable de la propagation du bouddhisme à travers le continent indien. S'agissait-il du monarque et de l'État, ou bien des moines et des nonnes bouddhistes qui auraient de ce fait créé un réseau religieux autonome dépassant les frontières politiques ?
And the third point is the question of identity. What did the Buddha preach, or whom did he preach to? Did he preach to renouncers?
La question des laïcs bouddhistes est directement liée à ce point, à savoir, le bouddhisme était-il une religion concernant la communauté au sens large, ou uniquement ceux qui renonçaient au monde, c'est-à-dire les moines et les nonnes? On a laissé entendre que le Bouddha avait prescrit une voie menant vers le salut et n'était nullement intéressé par le développement d'une religion rituelle ou communautaire. C'est sans doute vrai dans l'ensemble, on ne peut cependant pas nier que le canon bouddhique constitue une tentative concertée d'inculquer un sens moral et des valeurs éthiques à la communauté laïque, en référence à l'éthique bouddhiste et à la loyauté, à la Triratna, c'est-à-dire le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Dans ses édits mineurs du rocher, Ashoka se définit comme un Upasaka bouddhiste et exprime le souhait que le bouddhisme se répande à travers toute la société jusqu'aux couches les plus basses.
Which reads Raya Ashok, if that is to be accepted, as referring to the Mauryan ruler Ashok. And this comes from a site called Sannathi in North Karnataka. It's a 1st-2nd century AD representation. And Ashok then becomes significant for our purposes, both as a person who defined the sacred landscape in India and marked them with a whole range of edicts and stupas, but also as someone who bridged the gap between the religious clergy and the political elite. And his memory is invoked again and again by several rulers, not so much in India, but in Southeast Asia and Sri Lanka, when they refer to him as the righteous ruler and somebody who brought discipline back into the Sangha, which had strayed from the path. So in that sense, I do think that the contribution of Ashok was fairly significant for our purposes. As in Orissa,
en Orissa, comme sur le littoral de l'Andhra, la présence du bouddhisme correspond très clairement avec la période Maurya, comme en témoignent des inscriptions d'Ashoka découvertes dans le district de Kurnool, et un fragment d'inscription de piliers et d'un stupa provenant d'Amravati, datant du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Des fouilles archéologiques réalisées sur le site jumeau de Dharanikota attestent de l'existence de 5 périodes d'occupation entre les 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ et le 11e siècle de notre ère.
The length of occupation of the site is particularly important because it's usually the early historic periods which are often stressed. It is significant that the sites of Dharanikota and Amravati are located.
Il n'est pas étonnant que les sites de Dharanikota et d'Amravati se trouvent à l'endroit où le fleuve Krishna cesse d'être navigable, et on peut considérer qu'ils constituaient des lieux de débarquement pour le trafic côtier. Le fleuve Krishna forme un brusque coude à cet endroit, et on retrouve ce lien entre le site d'Amravati et la rivière sur un fragment de pilier, découvert lorsque le site a été dégagé en 1958-1959.
This fragment is particularly important because, in a way, it links Amravati to many of the sites of North India, and as I would argue, it legitimizes the presence of Amravati as a major Buddhist site. Engraved on one of the faces is the legend.
Sur l'un des côtés, on peut voir la légende suivante: le Goshti du nom de Vanda à Dhanyakataka, ainsi qu'une représentation du fleuve. On a traduit le terme Goshti par comité ou association, et on le retrouve sur les inscriptions de Sanchi dans le centre de l'Inde, de Batiprolu sur la côte de l'Andhra et de Mathura au nord de l'Inde. La stèle d'Amravati est importante dans le cadre de notre exposé, car elle décrit de manière graphique la création et la consécration de lieux sacrés dans une région bien éloignée des pérégrinations du Bouddha qu'est la côte du Sud-Est, ainsi que leur relation avec les lieux sacrés du nord de l'Inde. Il subsiste trois côtés de la stèle qui relatent des scènes ayant trait aux trois derniers mois de la vie du Bouddha, à partir de son séjour à Vaishali, dans le Bihar, jusqu'à son décès à Kusinara, ou Kasia, à 52 km de Gorakhpur, au nord de l'Inde. Des inscriptions offrent des explications supplémentaires sur ces scènes. La notation du premier côté mentionne le Bahupata Chaitya et d'autres Chaitya de Vaisali. Sur la deuxième face, on peut lire Shravasti. Une autre scène représente le marchand Anathapindika qui se rend acquéreur du domaine de Jetavana à Shravasti pour y établir la résidence du Bouddha et des moines. L'achat de Jetavana est une scène célèbre et on en trouve des représentations sur plusieurs des premiers sites bouddhiques au nord ainsi qu'au sud de l'Inde, comme à Bodh Gaya, à Bharut et à Sanati. Cette stèle, qui date de la dynastie Maurya, confirme donc les liens entre le site d'Amravati et les lieux sacrés du nord comme Vaishali et Shravasti, et explique peut-être le rôle important du soutien financier qu'ont apporté les moines et les nonnes à l'architecture religieuse du site.
But what is interesting is that starting from these very early beginnings in the 4th-3rd centuries BC, the number of sites really expands.
Après un démarrage modeste pendant l'époque Maurya, c'est près de 140 sites que l'on dénombre dans la région de l'Andhra, les plus anciens datant du 2e siècle avant Jésus-Christ, Et il est frappant de voir leur répartition le long de la côte de Srikakulam au nord jusqu'à Ramatirtham et Nandalur au sud. Le rythme du changement sur le plan culturel a donc été rapide à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, et pour en mesurer l'impact, on doit considérer les antécédents qui existaient dans la région, mais aussi les raisons qui expliquent une telle mobilité à travers la péninsule indienne. Lors des 2 millénaires avant Jésus-Christ, l'Andhra était peuplé de communautés de tradition mégalithique utilisant le fer, et l'édification de grands monuments de pierre, souvent des sépultures, témoignaient de leur intégration sociale. Selon la chronologie, les sites mégalithiques de l'âge de fer se sont répandus au cours de plusieurs siècles, de 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 de notre ère. Certains signes montrent l'existence de commerces et d'échanges, mais aussi d'une augmentation des conflits et des agressions parmi les communautés de l'âge de pierre de la péninsule indienne au cours du 1er millénaire avant Jésus-Christ, comparé avec ce qui se passait antérieurement. De plus, d'après la main-d'œuvre nécessaire à la construction de monuments mégalithiques, on constate que ces sociétés avaient recruté et organisé le travail. Ceci atteste de l'existence de plusieurs petits systèmes locaux d'importance et d'étendue géographique variable. Néanmoins, au sein de la sphère culturelle de l'âge de pierre, les spécificités régionales sont clairement marquées.
Indicating several small locally oriented systems of varying scale and geographic extent. Nevertheless, within the larger Iron Age cultural sphere, regional specificities are clearly defined. And what is also significant is that at many of the Buddhist sites, particularly in Andhra, both at Amaravati and at Yelleshwaram, urn burials have been found underneath Buddhist stupas.
So clearly, à Yelleshwaram, autre site en Andhra, on a mis à jour une autre sépulture contenant des urnes derrière un stupa bouddhique. Preuve que dans différents sites de l'Andhra, il était habituel de délimiter un espace sacré et que cette habitude s'est perpétuée des sépultures mégalithiques de l'âge de fer aux constructions de stupa bouddhiques.
Now, as compared to Andhra, a megalithic substratum is not known from Orissa.
Au contraire de l'Andhra, on n'a pas connaissance d'un substrat mégalithique en Orissa, même si, comme on l'a dit précédemment, des inscriptions et des vestiges de bâtiments attestent de la présence du bouddhisme dès les 3e ou 2e siècles avant Jésus-Christ. De récentes recherches archéologiques ont mis à jour plusieurs sites bouddhiques en Orissa, mais c'est entre le 5e et le 13e siècle de notre ère qu'ils se sont le plus développés, avec plus d'une centaine de sites bouddhiques connus dans la région. Une inscription du 3e siècle en Pratkrit, trouvée à Nagarjunakonda en Andhra, fait référence à des mâts-piliers, et les communautés de moines de Tosali, Palur et Puspagari étaient des centres bouddhistes importants de l'Orissa. Quelques sites sont plus anciens, comme celui de Langudi, qui se trouve sur une basse colline orientée vers le sud, dans les plaines du delta Mahanadi, à environ 90 km de Bhubaneswar, dans le district de Jaipur. Le Kelwa, affluent du fleuve Brahmani, le 2e plus grand ensemble fluvial de l'Orissa, serpente à travers les zones nord et est de Langudi Hill. Sur le contrefort nord de la colline, 34 stupas rupestres datent des 2e, 3e siècles de notre ère, alors que la majeure partie des sculptures datent des 7e, 8e et 9e siècles.
I should also perhaps mention that not everybody is very convinced of the early dating of Langudi. But certainly if one is looking at the period from the 5th century onwards, there is a fair amount of evidence for that on Langudi Hill itself. But a site very close to Langudi is the site of Lalitgiri, where
Et les fouilles archéologiques à Lalitgiri ont montré qu'il s'y trouvait un stupa datant du 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ. Un temple absidal bâti sur les vestiges d'une structure plus ancienne, des inscriptions en écriture Kushanavrami, Gupta et Post-Gupta, ainsi qu'une pièce de monnaie Gupta. Sur ce site, on a découvert des reliques enveloppées dans une feuille d'or.
That's the apse, and there's a whole lot of monolithic, small monolithic stupas which occur at the far end of the apse.
Il est également reconnu que le culte des reliques a joué un rôle primordial dans la diffusion du bouddhisme à travers l'Asie, et également que les reliques ont permis d'établir une géographie du bouddhisme spécifique qui s'est organisée autour des itinéraires de pèlerinage.
It is also accepted that worship of the relics played a key role in the spread of Buddhism across Asia, and relics have served to forge a distinctive Buddhist geography articulated through pilgrimage routes. The first evidence, of course, of relic worship comes as from Ashok, who is said to have
Ashoka fit ouvrir sept stupas et redistribuer leur contenu beaucoup plus largement à travers le continent, contribuant par là à la création de cette géographie sacrée. Les découvertes archéologiques de coffres à reliques contenant tout un éventail de petits objets le confirment. On trouve un récit illustré de la division des reliques sur les reliefs qui ornent les trois architraves des portails du grand stupa de Sanchi. Au départ, les seules reliques étaient les reliques corporelles du Bouddha lui-même. Progressivement, l'éventail s'est élargi. Et au début de l'ère chrétienne, elle comprenait non seulement les ossements de moines, mais également des objets précieux, de l'or, de l'argent, des perles, du cristal, des lapis-lazuli. C'est dans la région de l'Andhra que l'on a découvert la majeure partie des coffrets à reliques de la péninsule indienne. Le site bouddhique de Bhatiprolu, village situé sur la ligne de chemin de fer de Guntur, dans le district Krishna de l'Andhra Pradesh, est important à plusieurs titres. Il nous fournit des indications sur la pratique du culte des reliques au 2e siècle avant Jésus-Christ sur la côte de l'Andhra. Mais surtout, il montre que c'est le dirigeant local, le Raja, avec les membres du Goshti et du Nigama qui a financé l'édification du stupa. Le plus grand des trois tumulus s'élève à 12 mètres de haut et son existence nous est connue depuis 1870. En 1871, des recherches archéologiques effectuées sur le premier tumulus ont permis de découvrir un reliquaire de cristal contenant des cendres, une feuille d'or, des perles, etc. Les fouilles du Mahastupa ont mis à jour des coffrets de cristal, d'or, de cuivre, de pierre et de terre cuite placés à l'intérieur de trois coffres de granit fermés par un couvercle et couverts d'inscriptions. Derrière l'un des coffres en granit, on a trouvé 24 pièces de monnaie poinçonnées et disposé en forme de swastika. On pense que le texte de Bhatiprolu est une version régionale du texte brahmi primitif du Sud et qu'il date du 2e siècle avant Jésus-Christ.
These inscriptions give us a lot of information on, like I said, the patrons. And these patrons certainly indicate the presence of members of both market centers as well as associations which were termed goshti.
À l'évidence, ce sont donc les membres du Nigama et du Goshti qui, lors des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sont les mécènes des premiers sites bouddhiques du littoral Andhra. On dispose malheureusement de peu de détails sur le plan archéologique concernant la fondation et le développement des centres monastiques de la péninsule indienne. En effet, au cours du 19e siècle, l'administration militaire britannique n'a pas dégagé beaucoup de sites bouddhiques de manière systématique. Il est important de savoir qu'il existait en Asie une pratique traditionnelle de restauration des sites religieux qui consistait à les reconstruire, les réparer et les rénover. Ainsi, la plaque d'un tympan ornée au 1er siècle avant Jésus-Christ.
This is the 1st century BC slab, and on the other side is a 3rd century AD representation.
So while the 1st century BC does not show the Buddha on l'éveil du Bouddha figuré par un trône vide avec à sa base ses empreintes de pied. Elle a été sculptée à nouveau de l'autre côté, au 3e siècle après Jésus-Christ, et décorée d'un stupa très élaboré et richement décoré. Le Bouddha se tient à l'entrée du monument, tandis que des dieux serpents et des serviteurs le vénèrent. On a découvert 200 inscriptions qui datent de la période la plus ancienne du site, dont 108 nous donnent des informations intéressantes sur les questions relatives au soutien financier apporté au site. Et 42 font état de dons effectués par des femmes. Souvent, elles se font reconnaître à travers l'activité de leur mari, comme Somadatta, épouse de Bala, le scribe royal, ou Uta, mère de Dhanamala. Les moines et les nonnes, au nombre de 24, forment la catégorie de donateurs la plus importante, suivie des gahapati et de leurs épouses, et les commerçants et leurs familles représentent 15 donateurs.
This is not something which is of direct relevance here, but if one compares, the point I've also made somewhere else in another paper is that if one compares these inscriptions with, say, inscriptions from monastic sites on the other side, on the west coast at Kanheri, then they are not the same. This pattern is only for Amravati, and it's not a pattern which, you know, can be generalized to all Buddhist monastic sites. One has to look at each of them differently. The point then is that what happens after the early historic period and what happens to Buddhism after the 6th, 7th centuries AD.
Pour Alexander Cunningham, le déclin du bouddhisme a commencé dès le milieu du 7e siècle. D'après lui, à cette époque, les moines étaient devenus des communautés paresseuses et corrompues qui se satisfaisaient de la routine monotone de leur vie monastique. L'affaiblissement du bouddhisme a été vu parfois comme le résultat direct du développement de l'idolâtrie. Cette tendance se retrouve encore dans les textes historiques. On y prétend que, sous sa forme dégénérée, le bouddhisme se réduisait à un ensemble de pratiques psychosexuelles n'ayant que peu ou pas de ressemblance avec le bouddhisme nibbanique de l'époque de Bouddha ou avec la tradition de dévotion des bodhisattvas de la tradition Mahayana. Le bouddhisme Vrajayana a survécu dans quelques zones de l'est de l'Inde. Ces rituels obscurs s'y limitaient à quelques monastères et n'avaient pas de réelle base populaire ni d'identité distincte. Mais ce point de vue ne tient pas compte des traditions artistiques régionales vivantes et dynamiques qui se sont développées du 8e au 13e siècle, à une époque où la présence divine était centrale pour nombre de pratiques religieuses en Inde. À partir des 8e et 9e siècles, le culte des stupas tient une place particulièrement importante, ce qui explique l'essor du nombre de stupas consacrés à travers le monde bouddhique. Parallèlement, on constate un élargissement de l'assiette des ressources, comme l'attestent des actes recensant des dons sous forme de terres et de villages au profit de monastères.
and several other kinds of references to grants of land and villages.
Les dons étaient alors de toute nature, y compris des lampes, des chars à bœuf, des serviteurs, des cuves à eau et de l'argent.
And the donations now included lamps, bullock carts, servants, tanks, water tanks are particularly important, and money. And this was in addition to items.
Il venait s'ajouter aux offrandes d'objets rituels.
Several ritual practices had been incorporated into Buddhism. Thus, the ritual requirements of the monastic complexes not only required a wider range of donations.
Les ensembles monastiques avaient donc besoin non seulement d'une gamme de dons plus étendue pour faire face aux nécessités rituelles, mais également de main d'œuvre pour les surveiller et les entretenir. Et même si on ne fait plus allusion aux communautés commerçantes, il ne fait aucun doute que le commerce a continué à soutenir les besoins rituels des établissements religieux.
Though there is no doubt that the site continued well beyond the 6th century. There are several 8th to 9th century limestone sculptures in the British Museum. Also, the early writings of Colin Mackenzie, 18th century Colin Mackenzie, who surveyed the site, they provided two major inscriptions from Amaravati. One of these is now lost, while the other deals with Buddhist principles and is now in the collection of the British Museum. What we do not know at Amaravati is what these sites looked like, or you know, what these temples, Buddhist temples.
La période de l'histoire d'Amaravati, comprise entre le IVe et le XIVe siècle, est peut-être celle que l'on a le plus négligée, bien que l'on soit certain que le site était toujours en activité. Le British Museum possède des sculptures en calcaire des VIIIe et IXe siècles. Au XVIIIe siècle, Colin Mackenzie avait recensé deux inscriptions importantes provenant d'Amaravati, mais l'une d'entre elles a maintenant disparu. L'autre est une épigraphe de 20 lignes en sanskrit du 7e 8e siècle qui traite de questions relatives aux principes bouddhistes. Elle fait partie de la collection du British Museum. On possède peu d'informations quant aux caractéristiques physiques des sanctuaires qui abritaient ces sculptures ou des établissements qui entouraient le site. L'inscription rupestre de 1344 provenant de Gadaladenya au Sri Lanka relate la restauration par un satvira du nom de Dhammakirti d'un bâtiment à deux étages destiné à abriter des statues à Danya Katana en Andhra. En plus de la vallée inférieure du Krishna, le bouddhisme sous sa forme Vrayana continua de prospérer sur les sites de Sankaram, près d'Anekapale, à 50 km de Vishkapatnam. Une inscription du 9e siècle provenant du site recense des dons faits au monastère bouddhiste. À Bojanakonda, la plus à l'est des deux collines de Sankaram, une série de stupas taillés dans le roc, ou parfois construits en briques, s'éparpillent à différentes hauteurs. Ils représentent sans nul doute des offrandes effectuées par de pieux pèlerins à l'époque où l'on venait vénérer le sanctuaire absidal attaché au monastère. Plus loin, vers le nord, le long du littoral Andhra, le site de Saliundam s'élève sur une colline à environ 8 km de l'ancien port de Kalingapatnam. C'est en Orissa que le bouddhisme s'est le plus développé entre le 5e et le 13e siècle, et on a construit de prodigieux stupas sur les trois chaînes de collines du district de Jaipur. La tradition locale rapporte que la région était autrefois proche de la mer. Ratnagiri est une colline isolée de 25 mètres de haut, formée de gneiss et appartenant au massif d'Asya. Elle est encerclée de trois côtés par les fleuves Brahmani, Kimiria et Birupa. À proximité de Ratnagiri, le vaste site bouddhique d'Udayagiri s'élève dans un cirque formé par les collines de l'Asia les plus à l'est, et Naltigiri ou Lalitgiri se trouve non loin de là sur la rive sud du Birupa. Ces trois complexes monastiques forment un triangle. Et à vol d'oiseau, la distance qui sépare Udayagiri de Ratnagiri est de 5,5 km, celle de Udayagiri à Latlegiri de 3,5 km. Ces deux dernières collines sont beaucoup plus larges et plus élevées que celles de Ratnagiri. Les fouilles de Ratnagiri ont permis d'excaver un impressionnant stupa entouré d'une multitude de stupas de toutes dimensions. Deux monastères quadrangulaires et les vestiges de 8 sanctuaires sont entourés de petits temples.
Excavations at Ratnagiri unearthed an impressive stoop surrounded by large numbers of stupas of all dimensions, two quadrangular monasteries, and remains of 8 shrines with small temples around some of them. Varied deposits were found.
On a découvert plusieurs dépôts à l'intérieur du grand stupa. Ils comprenaient des os, en partie calcinés, ainsi que des reliquaires en forme de vase en terre, et l'un d'entre eux au moins contenait une pièce de monnaie. Le stupa principal est entouré d'un grand nombre de stupas monolithiques sur lesquels sont sculptées des images du Bouddha ou de déités bouddhistes. Plus de 700 stupas monolithiques s'éparpillent dans la région de Ratnagiri et leur nombre seul indique que ce site faisait concurrence à Bodh Gaya. Nancy Hawk prétend que les effigies des divinités siégeant sur le trône à l'intérieur des niches des stupas sont des images destinées à vénérer individuellement des moines ou des laïcs dont les restes reposent à l'intérieur du reliquaire. Elle soutient également qu'il s'est opéré un changement de style entre les stupas monolithiques non décorés découverts à Lalitgiri et ceux de Ratnagiri plus ornementés et pourvus d'une niche abritant une sculpture. Bien que Chunda, en tant que déesse, ne soit pas pourvue d'une niche abritant, ne soit pas souvent représentée sur les sculptures rupestres de Ratnagiri, on la retrouve de manière répétée sur les stupas monolithiques, et il semble qu'elle était très populaire, non seulement en Orissa, mais également sur d'autres sites comme celui d'Ellora, dans l'ouest de l'Inde, et de Chandi Mendut à Java. Tara est une autre déesse qui était populaire en Orissa, particulièrement à Ratnagiri, où l'on retrouve son effigie sculptée à l'intérieur des niches de 99 stupas monolithiques. On la considère comme capable d'écarter un certain nombre de dangers, y compris le naufrage. Le monastère de Ratnagiri se compose d'une cour centrale pavée, entourée d'une véranda et de 24 cellules de moines, avec un sanctuaire au milieu de l'un des côtés. C'est le plus beau du continent indien. Il possédait un étage et on voit les traces de 2 phases de construction et de restauration. La cellule 17 du monastère en formait un grand nombre de statues du Bouddha et d'autres divinités en bronze, ainsi qu'un sceau en métal et des cachets sur lesquels on peut lire « Shri Ratnagiri Ma Vihari Yarya Bhikshu Sanghashya ».
This is a modern reconstruction by the archaeological survey. The Mahakal temple was where the stoop was, you know, where the excavated stoop which I showed earlier was. And was being worshipped as a Hindu deity, not as a Buddhist deity. So the archaeological survey persuaded the villagers to move their worship away from the site because one of the problems of the site was the villagers constantly coming onto the site and interfering with the archaeological work. So this is the new temple which has been constructed, which has a separate entrance so that the villagers don't need to come to the site. Though Buddhist remains from Udayagiri were first recorded in 1870,
bien que les vestiges bouddhiques d'Udayagiri aient été recensés pour la première fois en 1870, ce n'est qu'en 1985 que l'on y a entrepris d'importantes fouilles. Elles ont permis de découvrir un stupa, un imposant monastère de 30 mètres carrés et un complexe résidentiel avec un sanctuaire ainsi qu'un réservoir d'eau de taille massive.
The water reservoir and the water management at the site is something that interests me, but it's not something which I would talk about now. How does the presence? Now, one of the points that I argue in the paper.
Je défends la thèse. Selon laquelle ces sites ne doivent pas être considérés comme des sites de bouddhisme tantrique, mais plutôt comme des sites qui démontrent une continuité avec le bouddhisme mahayadiste plus ancien.
The mortuary features at Buddhist landscapes, and the location of monuments to the monastic dead. As early as 1854, Cunningham...
Dès 1854...
Sorry, that's a slide which is from Udaygiri, which shows the monolithic stoops. And this is an undecorated stoop from Lalitgiri, but as you can see, there is a slot or a socket for mortuary deposits. So the final point that I would like to make is regarding the incorporation of mortuary monuments in the Buddhist sacred landscape.
En plus des variations régionales quant au caractère sacré des sites monastiques, il existe une autre caractéristique importante de ce paysage, à savoir l'emplacement des monuments dédiés aux moines défunts. Dès 1854, Cunningham a publié les résultats des rapides fouilles qu'il avait menées à Sanchi et il apparaît clairement qu'il existait un important cimetière associé au site monastique de Bhojpur et que sur ce site, comme à Sonari et à Ander, on constatait l'existence d'une architecture élaborée et d'un culte voué aux défunts du monastère. Des fouilles archéologiques menées sur des sites comme celui de Sanati montrent également que cette coutume d'élever un mémorial aux défunts réapparaît sous une forme légèrement différente au cours des premiers siècles de notre ère. Pour être plus précis, on a découvert des dalles commémoratives et l'une d'entre elles, qui a pu être entièrement récupérée, mesure 3 mètres de haut. Ces dalles sont divisées en plusieurs panneaux. Celui du haut est généralement cintré et orné d'une série de toits à étages et de fenêtres. Sur le deuxième panneau figure le portrait d'une personne ou d'un couple. Et sur le troisième, c'est le plus souvent un char à bœuf dételé ou un cheval sans cavalier qui est représenté. Totlakonda est un monastère bouddhique qui se trouve à 16 km au nord de Visapur. Une recherche archéologique basée sur un relevé systématique a permis de mettre à jour un tumulus d'environ 200 pierres, d'où l'on a une vue distincte sur le monastère. Ceux qui ont entrepris les fouilles les datent du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e et 3e siècle de notre ère. Le diamètre de ces tumulus de pierre varie de 1 à 3 mètres. Mais quelques-uns sont plus grands et dépassent les 10 mètres de diamètre.
But there are a few large ones which are 10 meters in diameter, and it has been argued that these were again for the lay people who wanted to be buried or who wanted their remains within the sacred landscape of the monastery. Now, several conclusions are valid.
À ce point, plusieurs conclusions sont possibles. Premièrement, les sites monastiques ont été altérés de manière irréversible lors de leur découverte pendant la période coloniale. Et cet élément est crucial si l'on veut comprendre le contexte archéologique d'un site. Deuxièmement, le dynamisme religieux et l'établissement de centres monastiques ne peuvent se comprendre qu'au travers d'une analyse de leur trajectoire historique profondément enracinée dans les traditions régionales et locales. Enfin, le stupa constituait le noyau autour duquel s'organisaient les relations entre les communautés des moines et des laïcs, et la série de sépultures, de tumulus de pierre et de plaques commémoratives associées au stupa témoignent de la grande diversité de ces relations.
Here,
There are several references within the canon to various places being given to the Buddha. But none of these exist on the ground. So if one is really looking at when do these sites start, they don't go back before, even Ashok. I mean, the edicts are there, but the Brahmagiri stoop may be Ashokan. The Sanchi stoop may be Ashokan. We don't have, even for stoops, a sort of reference to its presence during the Mauryan period. But the other question, which also interests me, is the stoops, even we can go back to the Mauryan period. What about the viharas? What about the residences for the monks? And the whole debate on which there is a lot of literature on this as to where were the monks and nuns living, or, you know, which, was it the place of worship that started it? Was it the monks and nuns who lived there? Was it the fact that at these spots where these edicts are, people congregated and, you know, were... these were read out, so there already was some kind of an empathy in that area. So I think, you know, it's the larger questions of how did these come to be defined and associated with the Buddha's life, I mean, even 100 years. Yes, oral tradition, but that's a long time. So as a historian, I think 100 years is a... It's a long time, sorry.
Can I just ask another small question that's related to this question? Okay, it's the same table that Peter
referred to. It's the Chinese.
In 307 BC for the Chinese translation of Vinayana. You might have a question for the very ignorant one. I didn't know that the Vinayana were known at all in China. Such an amazing.
Oh, that's from Beschert's. He's from Beschert's book, Heinz Beschert's. And. So I'm sorry if I made a mistake, but then maybe I should go and check that.
The Chinese edition was done in 370.
Yes. I have one little question. You did mention in your last slide, or slides, these cairns in Tokakonda. I think you had some of them in other sites too, or not?
No.
This is quite surprising. We've been in Funan archaeology trying to understand what the cairns were. But these cairns are, in fact, now they thought they were Polynesian kind of cairns, because you never bothered to excavate them. Mm-hmm. But under the cairns, you in fact have a structure in Arkeo, where, depending on who you are talking to in Vietnam, you will have an interpretation as a burial site with ashes, or the foundations of a temple or something or whatever. Anyway, but it's a division between the north and the south Vietnam. That's the big division that has little to do with science. Anyway, nobody really has interpreted these features in. And what do you have under the cairns? You said that there were lay people who were buried there. In which form? Is there something built under the heap of stones or not?
No. What you have is pottery. Bones. This is work that was done by Lars Fogelin. He's published that as well. And, you know, these cairns came up in his survey work. Now, in the beginning, which is true, you know, these are just a heap of stones. So whether these were even cairns or is this a heap of stones? There were two issues here. One was the association of ceramics. And because the site had been excavated, Tothlakunda had been excavated by the Andhra State Department of Archaeology, and they had a reasonable, you know, stratigraphy and pottery sequence. He was able to compare and date the cairns. That was one. Second was that the association of the cairns was not with structures, but much more with bones and, such finds. So there is no, unlike the urn burials, so there's no sort of structures there underneath that. But what is interesting is that, this is something which very little is talked on, which very little is talked about. But what is interesting is that at each site, these kind of mortuary features, they don't, you don't find them over a large area. Each one is very individual. So like Sannathi kind of memorial slabs, you don't, or at least I don't, haven't come across them from other sites. But in Sannathi, there's lots and lots of them. And, all over the site. But the cairns you don't find at Sannathi, the slabs you don't find at Tothlakonda, and then, at Cunningham, in any case, that cemetery is not published, so one doesn't know what is there.
I have another problem.
Yeah.
But I don't want to be just about these monasteries, those that you mentioned, seem to be mostly outside urban sites. They seem to be...
That's another
issue. It's an issue.
Yes. Yes. Mm.
Do you have also, maybe not monasteries, communities, but at least Buddhist monuments with some of what is associated with stupas or whatever, within clearly defined urban sites, or do they seem to be mostly outside of the
Not always. I mean, that's the earlier assumption that's made. You know, the monasteries came up next to urban centers because the monks had to earn a living, and that, this was from the people. There was, generation of resource, the surplus, and the surplus provided, so there's that argument. I'm not sure that I would agree with that argument, because if you look at sites, say, like Takshila, even Mathura, I mean, let's not go to Takshila. Takshila, clearly, there are monasteries within the city. Mathura, where is the city? Because, the mounds are all around. And if one is just looking at indicators of the fortification, then fine, there is a center. But the city is, that center is not the city, you know. So I think there are major issues here. And I'm not so convinced that of this old argument of generation of surplus leading to setting up of cities and leading to, you know, monastic sites being located outside the cities. They are not. They are very much, they're very much part of it. But for medieval, you know, we don't have data. Where are the surveys for medieval Orissa to know where, you know, where the centers are? The sites are huge.
But the
answers are very different. Southeast Asian archaeologists, you know, have to look in Southeast Asia for answers.
No, but still,
the other way around.
There are Indian canons that are supposed to be followed in many ways in Southeast Asia.
Okay.
At least to inspire Southeast Asian
studies. Yeah. Sorry, there was somebody at the back, yeah.
At what point you highlighted the change of deletion patterns during the medieval period, so I was wondering whether you can observe the same kind of change to Hindu institution. Is there a different Hindu deletion to Buddhist or to Hindu institutions at the same time in that area?
Thanks, that's a good question. And one of the sites that does provide this kind of comparison is Nagarjuna, for example, you know, where you have both Buddhist monastic centers and also Hindu temples. And then there does seem to be a sort of shift from one to the other in that sense. I would argue that, this is again, you know, something sort of takes us away from this, but I would argue on a different trend, which is two issues, importance of writing. I'm not sure how to switch this off. It was very distracting. thanks. The trends to follow would be the importance of writing. I mean, after all, why is it being written down? And so there is a change in the nature of inscriptions, from the donatory inscriptions to 4th, 5th century inscriptions, wherever, you know, Hindu temple, Buddhist site, whatever, where the inscriptions get longer, they follow another pattern, and they do not record everything, you know. Because if you see the temples, you find land and villages being donated, much less all these other things, you know, a little pillar and so on and so forth. So I would argue that certainly there is a change. It is also, there's also a change with reference to the kind of patronage which is written down for the Hindu temple, but that this we need to look at in terms of the whole emphasis on writing and what it stood for, as also the way in which writing then helped consolidate communities, you know. So that's another kind of argument. But I think I would go in that direction to look at this change, if it answers your question. Okay. Peter, yeah.
You showed the elephant at Kaima in the Darfur district. I've actually not seen that particular elephant before. Is it published? Is that, there's many things
in Orissa that are not. They're not, yeah. I'm not sure. It's. It's not published. There are three sites. One is Kaima, then there is Radhanagar. You know, Kaima is on the hill, then in the valley is Radhanagar, and then the other side of the hill is Langudi. You know, so they're sort of very close to each other. And Langudi, there was, I don't know if you followed the debate about the presence of Buddhism in Orissa, and you know, this is one of the sites which is often quoted as absolutely showing that there was Ashokan Buddhism, but it's not. I think the short answer is it's not published. Maybe if I find some reference, I'll send it to you.
I've seen a few references to
Langudi. Yes, by from that Southeast Asian Institute or Bhubaneswar. Yeah, but the dates are questionable. Yes.
Another question?
Yeah.
I just was
color. You seem to say something about, or some images which suggested a connection with Vajrayana, and I wasn't sure what exactly suggested Vajrayana connection. I mean, I just, it's possible to have no traces of Vajrayana. After all, I mean, one can have particular sculptures, and there didn't seem to be anything that you showed.
No, the point I was making was, you know, arguing against a certain historiography which says that because of tantricism, Buddhism declined in India.
Yes.
And, you know, and then post-7th century, nothing happens. And, of course, the counter-argument to this is, but there was tantricism in Hinduism as well, and that didn't seem to bother there. So it was really that argument. And then quoting Chopin, to argue for against this position, you know, against this sort of isolation of tantric monastic sites and the decline of Buddhism in India from 7th century AD onwards.
So you showed no sites that suggested presence of Vajrayana or absence of Vajrayana?
Yeah, that was not something which I was...
Just one further observation about the inscriptions and change in inscription patterns. It seems to me you were saying about mortuary evidence.
Yes.
The changes in every region.
Yeah.
Well, it's the same with inscriptions.
That's true, yeah.
Mm-hmm. I mean, Tamil inscriptions have a tendency to record all kinds of details that you would never find in Nepal, or you would never find in Karnataka, and every region has its very particular specificity as to what one puts in and what one leaves out.
Yeah, and also the formula. I mean, if you compare, certainly, yes, if you compare even the early inscriptions from, say, Mathura, with inscriptions from the Deccan, then the Buddhist formula that is used for making the donation, that varies as well. So certainly that point is well taken. But if you look, if one were to sort of look at it chronologically, then from the 4th, 5th centuries onwards, the inscriptions, tend to start talking about genealogies and the various ashwamedh and other sacrifices that the kings performed and so on and so forth. And, you know, so they take a different format if you look at it temporally. Certainly spatially, even within that format, there are variations.
Yeah, even then regionally,
the variations are huge.
Yeah.
Mm-hmm. The but the reliquaries and stuff to have are the only associated with Buddhism, because we I suppose yes,
if the relic casket
is a global study which has been carried out, because if you remember the article which you read for that and the comments, we found some in Kyaw in the context of 13th century BC and 2nd century BC. So
In India, certainly in the Buddhist context, I have not come across them in a temple context. They are all from Buddhist sites, but they are they have all kinds of things inside. So if you look at the ones from the northwest, they would even have Roman coins inside. But if you look at them from Andhra, then you know it's largely gems and so on. So there are variations within them, but they are in Buddhist contexts. And I don't seem to... They're not in... but I know there's this whole... in Southeast Asia, whether they are... what kind of sites they are from and...
Thank you for discussing all these questions. And in addition to giving us wonderful lecture.
Thank you. Thank you very much.